Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce dernier épisode classique de la 8e saison, nous aurons Chuck Rock, Crush Roller, Septentrion, Lucky Dime Caper, Time Cruise 2, et nous finirons avec un dossier sur les prototypes d'Atari. Bienvenue sur Rétrovision. Au tout début des années 90 et bien avant la plantureuse Lara Croft, Core Design jouait la carte de la virilité avec des personnages emblématiques et totalement déjantés comme par exemple Rick Dangerous. Et c'est en 1991 que l'on vit débarquer sur Atari ST et Amiga d'abord ce drôle de bonhomme néandertalien à poil dur et à la tête d'un groupe de rock punk Jurassic Rock, j'ai nommé Chuck Rock. Celui-ci devra partir à la rescousse de sa bien-aimée, Ophelia Rock, sauvagement kidnappée par le très jaloux Gary Glitter, probablement une référence à Gary Glitter, qui n'est autre que le batteur du groupe. Le décor est donc planté. Ici, le soft de Core Design mélange subtilement humour et préhistoire. Au lieu d'utiliser un gourdin pour attaquer ses ennemis, Chuck se servira plutôt de sa bedaine imposante, entraînée à la bière, et de coups de pied sautés. Certaines créatures préhistoriques lui donneront un petit coup de main à travers les niveaux, comme par exemple un ptérodactyle ou des dinosaures lui permettant de traverser des plans d'eau. Tout ceci d'une manière très humoristique. Impossible de parler de ce titre sans parler de la seule et unique musique que l'on retrouve à l'écran titre. Composée par Matthew Simmons, cette musique nous reste dans la tête dès les premières notes de guitare, jouée de manière dynamique et entraînante. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que le refrain ressemble à l'un des titres du groupe de rock des années 70, Wishbone Ash, intitulé Phoenix. Bien sûr, il s'agit là d'un court extrait, et il est impossible de confirmer s'il s'agit d'une inspiration, d'un hommage ou tout simplement le fruit du hasard. A noter que sur Amiga, vous aurez le choix entre les musiques ou les bruitages. Ces derniers étant vraiment rigolos, surtout le fameux Oonga Boonga que pousse Chuck à chaque début de niveau. Oonga Boonga. Oonga Boonga. Vous l'aurez compris, Chuck Rock est un classique de l'âge d'or du jeu vidéo dont tout le monde se souvient, ne serait-ce qu'un petit peu. Malgré des niveaux assez courts et un gameplay basique, il reste indéniablement un des titres de la vieille école que l'on aura toujours plaisir à refaire. À l'origine, Crush Roller était un petit jeu d'arcade sans prétention sorti en 1981. Dans ce titre, tirant ses fondamentaux de l'illustre Pac-Man, un pinceau doit peindre la totalité des chemins du décor sans se faire attraper par les ennemis colorés. Simple mais addictif, le titre s'avère très difficile car vos poursuivants savaient très bien comment vous coincer. 18 ans plus tard, Adega ressort le titre du placard et en profite pour lui faire un bon dépoussiérage et lui donner une seconde chance sur Neo Geo Pocket Color. Cette version rajeunie sur la Nomade de SNK ne change pas d'un iota la formule employée par son ancêtre. vous incarnez toujours un pinceau devant repeindre la totalité des pistes du niveau en évitant d'être attrapé par les deux espèces de coudes de peinture qui vous pourchassent et dont la seule façon de vous en débarrasser quelques secondes est de leur passer dessus avec un rouleau. De temps à autre, un personnage fera irruption et mettra un point d'honneur à saborder votre travail en marchant sur la peinture fraîche. Il sera de votre devoir de capturer l'opportun et de réparer les dégâts. D'ailleurs, il n'est pas rare de passer plusieurs minutes à chercher pourquoi nous ne sommes pas passés à un niveau suivant alors que tout est peint et de finir par trouver le pixel oublié dans un coin de l'écran. Frustrant. Bref, cette mouture ne révolutionne pas la recette et se contente d'une simple mise à niveau technique en offrant des graphismes plus détaillés et des lieux plus variés. Seule différence notable par rapport à son aîné, la possibilité de choisir le niveau suivant en fonction des embranchements proposés. Cela implique donc de refaire plusieurs fois le jeu pour choisir les divers embranchements et ainsi faire la totalité des niveaux proposés. Une petite carte peut être affichée pour savoir comment atteindre les stages non explorés. Un mode trial permet de vous entraîner dans les niveaux que vous avez déjà visités et un petit glossaire des divers fauteurs de troubles est disponible. Vous pourrez ainsi consulter les fiches de ceux que vous aurez capturés. Jouable à deux via le système de câble Link, Crush Roller fait partie de cette caste de jeux simples et discrets, mais pourtant terriblement sympathiques à jouer lorsque l'on a un quart d'heure à tuer, car malheureusement, avec ses continues infinies, il ne faut pas bien longtemps pour en faire le tour. Que quelques jours avant l'été, vos bagages sont bouclés et vous êtes prêt à embarquer pour une croisière au soleil. Tiens, à propos de paquebot, je me souviens d'un excellent jeu sur Super Famicom. Septentrion, alias SOS, dans sa version nord-américaine, est un jeu d'aventure développé par le studio Field et édité par Human en 1993. Celui-ci se déroule le 13 septembre 1921 à bord du Lady Critania, luxueux paquebot de croisière qui va se retrouver d'ici peu dans une situation fort délicate. Pris en pleine tempête, le navire, à la manière du Poséidon dans le roman de Paul Gallico, va être frappé de plein fouet par une gigantesque lame de fond, le faisant ainsi chavirer. À partir de cet instant, le chrono est enclenché. Les survivants n'auront que 60 minutes pour trouver une issue de secours avant que le paquebot ne sombre dans les abysses. Parmi ces survivants, vous pourrez incarner l'un d'entre eux dans un choix de 4 personnages de toute classe sociale, passagers ou membres d'équipage. En plus de votre mission de survie, vous devrez à chaque fois retrouver un proche qui, comme par hasard, aura survécu ainsi que d'autres rescapés trouvés sur votre chemin pour ramener tout le troupeau sain et sauf à la sortie. Tout cela ne sera pas une mince affaire, car il faut déjà convaincre ces pauvres brebis de vous suivre. Certains accepteront sans sourciller, d'autres refuseront, et certains ne se laisseront convaincre qu'après leur avoir rendu un petit service, offrant ainsi la voie à des quêtes annexes. Une fois ces âmes errantes ralliées à votre cause, il faudra amener tout ce petit monde à bon port. Et là, ça se complique. Le navire est un véritable labyrinthe et la carte du paquebot ne vous montrera que les accès principaux. Il faudra, pour la plupart du temps, avancer à l'instinct. De plus, le vaisseau retourné, de nombreux accès sont soit bloqués, soit inaccessibles, vous obligeant à de nombreux détours et autres demi-tours. Et comme vos compagnons d'infortune ne sont pas plus intelligents que les Lemmings, vous devrez jouer les éclaireurs pour trouver la voie la plus sûre. Et même là, pour franchir flammes et précipices, la sélection naturelle fera son œuvre. Une chute ou le contact avec un piège ne vous emmènera pas au game over, mais vous donnera 5 minutes de pénalité. Au bout de 30 minutes, une explosion accélérera le processus du naufrage. L'eau commencera alors à envahir le paquebot. Cela facilitera l'accès à certaines zones que vous pourrez désormais rejoindre à la nage, mais vous rappellera constamment que le temps tourne et qu'il faut vous dépêcher. Septentrion fait donc partie de ces œuvres uniques dont seul Human avait le secret. Très inspiré du cinéma catastrophe dans son histoire et sa mise en scène, celui-ci puise également beaucoup d'éléments de gameplay dans le vénérable Prince of Persia, notamment dans la possibilité de s'accrocher aux plateformes. Même si la réalisation est loin de pousser la Super Nintendo dans ses derniers retranchements, son utilisation intelligente du mode 7 renforce encore plus l'ambiance prenante du titre. Le challenge de trouver la route la plus courte et de finir avec un maximum de rescapés est une motivation bien suffisante pour refaire ce jeu aussi souvent qu'il vous plaira. Si vous ne connaissez pas Septentrion ou que vous n'avez jamais eu l'occasion de l'essayer, il est temps de réparer cette erreur. Dans le fond, vous avez raison. Déchirez vos billets Costa Croisière, posez vos valises dans un coin et passez votre été sur votre Super Nintendo et croyez-moi, ce sera bien plus sûr. Attention, chef-d'œuvre, nous voici devant le très bon, que dis-je, l'excellentissime Lucky Dime Caper, sorti en 1991 sur Game Gear et Master System. Nous nous intéresserons principalement à la version Game Gear. L'histoire est super simple, les pièces porte-bonheur de l'oncle Picsou ont été dérobées, mais pas seulement, ils ont aussi kidnappé ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Et le coupable de cet horrible méfait n'est autre que la très vilaine Mystique. Le jeu se décompose comme suit. Vous allez devoir dans un premier temps sauver vos neveux qui sont sur le même continent. Puis vous allez devoir récupérer les pièces de Descent. Tout d'abord, il y en a trois qui sont détenus par les corbeaux, ces derniers étant sous les ordres de Mystique. Et la toute dernière pièce, vous devrez la récupérer directement auprès de Mystique. Et voilà, l'histoire n'est certes pas ce que l'on a fait de plus rebondissant, mais est largement suffisante pour vous mettre dans le bain. Les niveaux sont superbes, avec des graphismes très détaillés, et force est d'admettre que pour la petite 8 bits portable de Sega, le jeu s'en sort plus qu'honorablement. Vous allez traverser différentes régions et continents, du pôle Nord aux îles chaudes du Pacifique, en passant par l'Amérique et ses niveaux tempérés, pour finir en Europe, dans le château de Mystique, ce qui aura pour effet de nous montrer différentes animations quand il fait trop chaud ou trop froid, directement sur Donald. L'animation du jeu est vraiment sympathique, et il est vrai qu'entre Sega et Disney, cela a toujours été une grande histoire, car ils ont toujours apporté un grand soin à leur jeu de plateforme. Les musiques sont gentillettes et les thèmes ne sont pas récurrents, elles se laissent écouter sans aucune lassitude. Les bruitages sont assez sommaires mais restent tout à fait audibles, même s'il faut avouer qu'ils sont en deçà des musiques. Donald répond bien aux commandes, il marche, il court, il saute, il frappe avec son gros maillet et parfois il lui arrive de lancer des frisbees pour anéantir les ennemis. Même dans les moments les plus difficiles du jeu, vous arriverez parfaitement à contrôler Donald. Les level design sont simples mais efficaces. Il y a toujours quelques petits passages retors, certes, mais le jeu reste tout de même très facile. Et il n'est pas exclu que vous puissiez le finir sans changer les piles de la Game Gear. 24 ans après, le jeu est toujours aussi bon, même s'il n'est pas très difficile. Pour ceux qui l'avaient déjà terminé à l'époque, comme pour ceux qui ne l'ont jamais fait, foncez, vous ne le regretterez pas, foi de canard. Nous avons commencé cette saison de Rétrovision avec un jeu de flipper sur PC Engine. Alors pourquoi ne pas finir avec un jeu de flipper sur PC Engine ? Time Cruise 2 est un titre dont le thème principal est le voyage à travers le temps. La bille représente la capsule spatio-temporelle et vous naviguerez à travers un plateau à plusieurs niveaux verticaux, mais également latéraux, constituant un canevas de 7 écrans interconnectés afin de brancher les diverses machines qui vous permettront de voyager dans le temps pour des phases bonus. En dehors des habituels bumpers, spinners, kickers et slingshots, votre bille devra frapper les prises de 5 machines temporelles pour les activer et ensuite y entrer pour accéder à des stages bonus très variés. Se déroulant dans des époques très différentes, certains stages resteront des flippers basiques, alors que d'autres vous offriront des défis plus originaux, tels les niveaux futuristes qui mettront votre dextérité à rude épreuve, ou le niveau de la préhistoire avec son homme de Cro-Magnon adepte du golf. Vous pourrez même parfois vous engouffrer dans une warp zone où vous vous retrouverez hors du temps. Défi réussi ou non, une fois de retour sur le plateau de jeu, vous devrez à nouveau brancher la machine fraîchement utilisée pour la réactiver à nouveau. Mais à chaque utilisation des machines, la rebrancher demandera à chaque fois plus de coups avec votre bille que la fois précédente. Développé par le petit studio Sankindo, Time Cruise 2 est un flipper d'excellente facture. La physique de la bille est très correcte, les différents plateaux sont variés et graphiquement réussis. L'ambiance sonore très rythmée et entraînante donne une bonne dynamique au jeu. Bref, même s'il n'égale pas Devil Crash, Time Cruise 2 constitue une très bonne alternative et se pose sans problème comme l'un des meilleurs titres du genre sur PC Engine. Il reste tout de même une question en suspens. Si nous avons affaire à une suite, il nous a été impossible d'obtenir le moindre renseignement sur le premier opus. Qui l'a développé ? Qui l'a édité ? Sur quelle machine est-il sorti ? Le mystère reste entier. Si vous avez la moindre information à ce sujet, n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Dumont de Liège, et eux, ce sont les Dumont de Mons. Et ça, c'est leur ordinateur de jeu, Atari.
L'industrie est un univers pavé de réussites, d'échecs, mais également d'occasions manquées. Le monde du jeu vidéo, comme les autres industries, n'y font pas exception. Nombreux sont les constructeurs à avoir travaillé sur des projets qui n'ont pas abouti pour des raisons X ou Y. Faisons donc un tour non exhaustif de ces machines auxquelles vous ne jouerez jamais. Pionnier du jeu vidéo grand public, avec son concurrent Magnavox, Atari était une société très prolifique en matière de machines, et nombreuses sont celles qui n'ont pas atteint les rayonnages des magasins. Dès la fin des années 70, la firme devait écouler son stock de puces AY3-8500, puces qui équipaient le fameux Pong. La solution fut la Game Brain, une console permettant de jouer à toutes les variations existantes de Pong. Prévu initialement pour l'année 1977, le projet fut abandonné au profit du développement de la VCS. Le succès de l'Atari 2600 n'est d'ailleurs plus à prouver, et Atari, voulant continuer à dynamiser ses ventes, avait pour projet de commercialiser une version petit budget de sa console phare. Toujours dans l'optique de rentabiliser sa VCS, l'Atari 2000 était donc une version miniaturisée avec les contrôles intégrés. Mais celle-ci fut jetée aux oubliettes au profit de la 2600 Junior. L'Atari 2700 en était une version améliorée devant booster des ventes qui commençaient à s'essouffler. Cette console avait pour seule modification d'avoir des manettes sans fil. Son design n'est pas sans rappeler celui de l'Atari 5200. Du recyclage, vous dites ? En 1991, Atari travaillait sur le projet Panther, une console 16 bits épaulée par un processeur 32 bits orienté objet. Développée en même temps que le projet Flare 2, la Panther fut abandonnée au profit de ce dernier, qui fut rebaptisé par la suite Jaguar. En parlant de la Jaguar, à l'instar de la PC Engine avec la gamme Duo ou du Mega CD avec le Wonder Mega et le CDX, Atari avait voulu unir la console et l'extension en une seule unité. Intelligemment baptisé Jaguar Duo ou Jag Duo, le projet fut vite balancé à la corbeille face à l'échec commercial cuisant de la 64 bits. Terminons avec le prototype le plus mystérieux d'Atari, la Mirai.
Vision passe-passe activée.
Deux théories circulent quant à ses ambitions. Certaines personnes affirment qu'il s'agissait d'une version console de l'Atari ST, théorie fondée sur la ressemblance esthétique du prototype avec l'Atari XEGS, version console de l'Atari 65XE. Mais d'autres affirment qu'il s'agissait d'une Neo Geo. Si cela peut sembler surprenant, plusieurs indices vont dans ce sens. Déjà, le nom Mirai est un mot japonais signifiant futur. Or, Atari a toujours baptisé ses machines avec des nombres ou des noms d'animaux. Ensuite, le port cartouche de cette machine est d'une largeur équivalente à une cartouche MVS. Enfin, Atari et SNK étaient deux entreprises qui se connaissaient bien. Elles ont déjà travaillé ensemble et leurs locaux américains de Sunnyvale étaient quasiment voisins. De là, deux hypothèses se dégagent. La première serait qu'SNK, alors novice sur le marché des consoles de salon, aurait profité de l'expérience d'Atari pour lui confier la production et la commercialisation de la version console du MVS, limitant ainsi les dégâts en cas d'échec. La seconde voudrait que Mirai aurait été une version low cost, à bas prix, de la Neo Geo, développée pour le vrai grand public. Mais tout ceci reste de pures hypothèses, et sans une réponse claire d'un ancien employé de la firme, nous ne saurons donc jamais quels étaient les plans d'Atari concernant cette machine. Si Atari est donc le roi des projets avortés, les autres constructeurs ont aussi des projets restés dans le placard. Nous les aborderons dans une prochaine émission.